Henri Quinson, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez, à peu près il y a une vingtaine d'années, vous exerciez un métier qui, aujourd'hui, est assez méprisé, entre guillemets. C'était celui de trader à New York, à Wall Street. Et vous étiez donc également chrétien de par votre éducation. Et à l'âge de 20 ans, vous aviez redécouvert la prière en tant qu'adulte. Donc, vous aviez un début de vie spirituelle. Et en lisant donc le livre que vous avez publié, « Moine des cités », de Wall Street au quartier nord de Marseille, cette vie spirituelle va tout à coup prendre toute la place en trois temps, c'est-à-dire qu'il y a trois dates quand même assez décisives dans la même année. Donc ça commence par une expérience un certain dimanche, vous allez peut-être nous en reparler, de janvier 89, où tout à coup vous vivez une sorte d'expérience un peu mystique. Ensuite, le 16 octobre, vous vous réveillez un matin et là vous vous dites « il faut que je démissionne de mon poste de trader ». Alors qu'on vous proposait une offre très alléchante, je pense, en Angleterre. Et suite à ça, vous avez une vision, donc quelques jours plus tard, le 24 octobre, où là, vous vous voyez à Marseille en train d'enseigner à des jeunes en difficulté. Vous vous appelez Quinson, Henri Quinson. Henri Quinson, c'est celui de Dieu ?
Oui, qui n'entend qu'un son, n'entend que la voix de Dieu. Et donc, c'est vrai que finalement, ce récit autobiographique « Moine des cités » de Wall Street au quartier nord de Marseille, c'est aujourd'hui, ça frappe l'imagination des gens parce que, vous avez raison de le dire, bon, les traders, je ne sais pas s'ils sont méprisés, mais vous avez raison, pour la plupart des gens, c'est sans doute le sentiment qu'ils ont. Mais il se trouve que les salles des marchés, c'est... Et les traders, c'est finalement un univers dont tout le monde parle, parce que ça nous affecte tous de manière directe ou indirecte. Et en fait, c'est un lieu où personne n'a habité. Le monastère que je vais rejoindre après, c'est un peu la même chose. C'est un lieu dont les gens parlent. Beaucoup de gens vont voir des monastères, mais très peu ont vécu la vie monastique de l'intérieur. Et de la même manière, quand après je termine dans une cité HLM, celle dont vous parliez, dans ce rêve où je me vois à Marseille, les cités HLM, on en parle toujours quand il y a des voitures qui brûlent, comme par exemple en novembre 2005, et en même temps, c'est des lieux où la plupart des gens n'ont jamais été habités et connaissent très mal. Donc mon histoire, c'est finalement l'histoire d'habiter trois lieux dont tout le monde parle, qui font fantasmer les gens et que les gens connaissent très mal. Et dans cette histoire-là, le fin fond de la question, pourquoi être passé d'un lieu à un autre, c'est effectivement cette quête spirituelle. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que ces lieux, on pourrait dire que c'est presque des métaphores de Dieu, puisque Dieu, tout le monde en parle, et en même temps, c'est le grand invisible. Il laisse simplement des traces dans le visible, et notamment le choix d'un trader qui va tout quitter pour aller habiter dans un premier temps dans un monastère et après dans une cité HLM, ça pose forcément la question. Et donc, il a dû découvrir quelque chose qui est mieux que tous ces bonus et ce salaire mirobolant qui lui était offert. Et c'est ça un peu la question de mon livre. Et cette question, en fait, je ne souhaite pas la traiter théoriquement, mais simplement raconter une histoire. Et donc, au cœur de cette histoire, effectivement, il y a cette expérience spirituelle. Moi, le jeune consommateur occidental qui a tout dans sa vie et qui se dit, mais il me manque quelque chose. Et à l'âge de 20 ans, donc avant même tous les événements que vous avez mentionnés, je fais une expérience de prière. En fait, je dis à Dieu, tout simplement, à la suite de Charles de Foucault, ben voilà, si tu existes, manifeste-toi à moi. Et dans cette expérience de prière, Dieu vient. C'était le livre Lettres du désert de Carlo Caretto, un Italien qui, assez tard dans sa vie, avait fait le choix de se retirer au désert à la suite de Charles de Foucault. Et dans ce livre, il parlait de la prière, pas de manière théorique, mais il parlait de son expérience de la prière. Et en lisant ce livre, je me suis dit, peut-être que moi-même, je devrais faire cette expérience de la prière. Et cette expérience de la prière, j'étais frustré avant cette expérience de prière. Je fais cette expérience de prière et après, je suis comblé. Je suis dans la joie, je suis dans la paix, les fruits de l'Esprit-Saint dont parle saint Paul dans ses lettres. Et je me dis en bon fils de Descartes, bon, mais peut-être que c'est pas Dieu, peut-être que c'est purement psychologique, c'est peut-être la méthode Coué, j'ai ma petite crise métaphysique, je m'invente un Dieu, il vient, et puis ça y est, ça fait un bon médicament qui n'aura pas besoin d'être remboursé par la sécurité sociale, qui coûte rien, mais est-ce que pour autant c'est Dieu? Et à partir de là, je me lance dans une quête pour un caractère religieux, et qui va prendre de plus en plus d'importance jusqu'à déboucher sur cette démission de la banque. Et à travers cette quête, j'achète plusieurs livres sur les différentes religions, chrétiennes, juives, musulmanes, bouddhistes, etc. Et je commence à me faire une opinion, et je découvre qu'en fait, l'image que j'avais de Dieu était un Dieu finalement mort, un Dieu assurance-vie, qui est sans doute d'ailleurs l'image que la plupart des gens ont dans leur tête quand on leur dit le mot Dieu. Dieu qui, comme je le dis dans mon livre, vient de Zeus. C'est un Dieu qui n'a pas grand-chose à voir avec le Dieu biblique, le Dieu des évangiles. Et ce Dieu, finalement, pour moi, à l'époque, c'était celui qui avait créé le ciel et la terre. Alors, j'étais allé à l'école de la République et on m'avait expliqué que, voilà, on pouvait faire des hypothèses sur l'évolution de la création, mais qu'au début, il y avait peut-être quelque chose comme le Big Bang, enfin bon. Mais on m'a jamais expliqué ce qu'il y avait avant le commencement, et pour cause. Et si on était capable de me le dire, il resterait la question, oui, mais pourquoi tout ça? Quel est le sens de tout ça? Quelle est la saveur aussi de toute cette existence? Et donc, je découvrais que, bon, bah là, la plupart des gens, ils mettent Dieu. Parce qu'on ne sait pas répondre à ces questions. Et puis, quand on meurt, pareil, on va mettre Dieu, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après la mort. Or, moi, la question qui m'occupait, j'étais frustré dans ma vie. Et donc, je me posais la question de cette poétesse américaine, Emily Dickinson, que je cite dans mon livre, c'est « Y a-t-il une vie avant la mort ?» Moi, je veux être vivant aujourd'hui, tout de suite. Et c'est dans la prière que j'ai pu découvrir que oui, le Dieu que je pouvais rencontrer était un Dieu vivant, qui non seulement me comblait moi personnellement, et on pourrait dire que ma démarche était assez égoïste, en tout cas centrée sur moi-même, mais progressivement, je me suis rendu compte que cette vie de prière m'ouvrait sur les autres, je rendais des services auxquels je n'avais pas pensé avant, etc. Et que dans ma quête intellectuelle, j'ai découvert aussi le Dieu des chrétiens, qui me paraissait tout à fait original, puisque les chrétiens disaient que finalement, le fondateur, pourrait-on dire, de leur religion, Jésus, était non seulement un homme, un sage, un prophète, mais était Dieu lui-même, ce qui est une énormité, d'une arrogance absolument incroyable, et en même temps, c'était le Dieu le plus proche, puisqu'il venait habiter parmi nous, en même temps le Dieu le moins menaçant, celui qui s'imposait le moins, puisqu'il acceptait d'être crucifié à la demande des autorités religieuses de sa propre tradition et avec la complicité de la grande puissance de l'époque, l'Empire romain, et avec l'accord de la majorité du peuple. Et donc Dieu sortait de l'histoire, condamné injustement, crucifié, sans chercher à se défendre. Et donc c'était un Dieu à la fois incroyablement proche, et cette super présence, incroyable présence, proximité, était absolument pas de l'ordre de l'imposition, d'un triomphe par les armes, de quelque chose de contraint.
D'ailleurs, dans votre livre, vous citez, vous dites au lieu d'un dieu des armées en trois mots, il s'agit là plus donc de Jésus, un dieu des armées en un seul mot.
Exactement. Moi, j'étais révolté contre ce dieu qui serait un dieu haut-parleur, qui parle de haut, qui parle du ciel, et qui finalement dirait aux créatures que, peut-être en leur envoyant un livre, en leur disant, ben voilà, vous n'avez qu'à suivre ce manuel de savoir-vivre, et tout ira bien. Moi, ce qui me scandalisait, c'était la souffrance dans le monde. J'étais, moi, quelqu'un qui avait eu beaucoup de chance dans la vie, puisque je venais d'une famille unie, j'avais manqué de rien, j'étais citoyen français, citoyen des États-Unis, je n'avais jamais raté une année d'études, certes parce que je travaillais, mais aussi parce que j'étais plutôt doué. Et donc, je trouvais pas très juste qu'il y en ait qui meurent de faim sans qu'il y ait des raisons objectives à ça. Et donc, ma question, c'était, mais quel est ce Dieu dont on me parle, qui a l'air d'être un tyran, qui crée tout ça et qui finalement n'en a plus rien à faire après? Et le Dieu des chrétiens ne répond pas à toutes ces questions, mais c'est un Dieu très différent, qui, en tout cas, vient partager notre souffrance, partager notre existence humaine, et qui nous invite donc à vivre l'amour du don de soi. Et donc, la vie prenait un sens, y compris dans son échec apparent, celui de la mort, de la maladie, de la souffrance, et il s'agissait de faire triompher un royaume de fraternité qui ne s'impose pas aux autres, et qui vient du dedans, dans une transformation personnelle. C'était ça ma découverte majeure, qui effectivement aboutit à un moment donné à me poser la question d'une vocation particulière. Et donc, au bout d'un an, après avoir fait cette découverte à l'âge de 20 ans, je me pose la question pour la première fois de ma vie, mais peut-être suis-je appelé à, peut-être, par exemple, ne pas me marier. Il y a des moines bouddhistes qui font ça, des moines chrétiens qui font ça, des prêtres, des religieux, des religieuses. Ou alors, changer de carrière professionnelle. Mon père lui-même était banquier, mais tout le monde n'est pas forcément conduit à refaire exactement ce que font ses parents.
Votre frère aîné était, lui, prêtre, par contre, déjà, c'est ça?
Oui, mon frère Paul est entré au séminaire après avoir fait de... une expertise comptable. Cette entrée au séminaire m'avait posé question aussi, en me disant, j'avais l'impression que la foudre était tombée juste à côté de moi, ça me paraissait curieux. Donc là, il y avait une question pour moi, et puis mes deux autres frères étaient plutôt dans la catégorie des bouffeurs de curés, et donc j'avais, comment dire, une approche un peu équilibrée par mon milieu familial immédiat sur cette question de Dieu. Il y avait débat sur l'existence de Dieu et sur le caractère bienfaisant ou malfaisant de l'Église. Et donc toutes ces questions, je les portais en moi aussi à travers mon milieu familial et puis mes amis. J'étais dans un environnement où il était très difficile de parler de ces expériences spirituelles. Et pendant très longtemps, j'ai cheminé sans être capable de parler. Je le dis au début de mon livre, je n'arrivais même pas à parler de ces questions de vocation à un prêtre. Mais il se trouve qu'à un moment, j'ai trouvé la force de présenter ma démission à la banque en 1989. Et comme vous le disiez très bien, j'ai eu cette vision où je me retrouvais à Marseille, une ville que je ne connaissais pas, où je n'étais jamais allé, et que je ne savais d'ailleurs pas écrire correctement, je l'écrivais avec un S à la fin, comme on l'écrit en américain, et où je me retrouvais entouré d'enfants visiblement venus du sud de la Méditerranée, et que j'aidais pour l'école. Mais je me suis dit, je ne connais personne à Marseille, etc., et donc je n'ai pas cherché à tout prix à vérifier cette vision, et donc je suis entré au monastère de l'Abbaye de Thamier en 1989.
Alors oui, effectivement, entre cette vision où vous voyez à Marseille enseigner et la concrétisation, qui est aussi l'histoire de ce livre, il y a quelques années, je dirais, d'ajustement, peut-être un peu comme Jonas dans l'Ancien Testament. Effectivement, vous êtes passé par 5 années de vie monastique dans la communauté de Thamier, c'est ça? Vous faites également plusieurs rencontres qui, je pense, sont importantes pour vous. On va en citer 3, Guy Gilbert, par exemple, Enzo Bianchi, qui est une communauté qui s'appelle Bose, et également l'abbé Pierre. Et puis, au long de ces années, vous avez également une réflexion et tout un cheminement intérieur sur l'engagement pour suivre au mieux le Christ. Est-ce que ces années ne sont pas des années de réflexion et de précision de votre tâche, ce à quoi vous êtes appelé, justement? Et est-ce que vous ne passez pas de l'œil du cœur, puisque cette vision, on pourrait dire que c'est une vision nette, précise, tranchante, à une forme raisonnée, peut-être, pour vivre pleinement cette vision?
Oui, c'est une question bien posée, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une relation dans la tradition biblique et je pense dans la spiritualité vraie, entre à la fois le désir profond du cœur qui peut se traduire par des visions, c'est-à-dire une projection de l'imagination, qui finalement, comme vous le disiez, a quelque chose de très tranchant, de très direct, un peu comme le cinéma. L'image, c'est quelque chose qui parle tout de suite. L'homme, dans son évolution, a commencé à dessiner avant d'écrire, qui est déjà une étape de réflexion et de formalisation de la pensée assez élaborée. Et cette vision, finalement, elle est arrivée peut-être trop tôt, trop vite, et je ne pouvais pas la suivre. Il a fallu tout un processus de maturation, dans lequel, je pense, il y a une maturation spirituelle, c'est-à-dire l'apprentissage dans un monastère traditionnel comme l'abbaye de Thamier, eh bien, d'un certain rythme de prière, la lectio divina, c'est-à-dire la lecture priée des Écritures tous les jours, la rencontre d'un certain nombre de grandes figures que vous avez mentionnées, et aussi, sur le plan intellectuel, c'est très vrai, une certaine analyse et pour essayer de voir finalement la pertinence éventuellement de cet appel profond, c'est-à-dire en particulier dans mon livre l'importance d'abord de reconnaître les intuitions justes de la vie monastique. Alors moine, ça vient d'un mot grec monos qui veut dire un, donc c'est des communautés de célibataires, et puis c'est aussi des communautés de célibataires dans des lieux, on parle des pères du désert qui sont les pères fondateurs de la vie monastique. Alors, quels sont les déserts aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit simplement de communautés qui sont dans des zones rurales, c'est le cas de l'abbaye de Thamier et de la plupart des monastères en France? Est-ce qu'il n'est pas intéressant de reprendre la notion de désert en voyant que les pères du désert d'Égypte, c'était des gens qui avaient décidé d'habiter dans les banlieues de l'Empire romain? L'Empire romain était devenu chrétien avec l'empereur Constantin, et en fait, les premières grandes époques de la vie monastique, c'était ces pères du désert qui avaient décidé que l'Église officielle, devenue religion d'État, s'acoquinait un petit peu trop avec les riches et les puissants. C'était la fin de l'époque des martyrs, et qu'en fait le vrai martyr, le vrai témoignage, martyr ça veut dire témoin en grec, le vrai martyr c'était celui qui, par son choix de vie un peu radical, et en l'occurrence un peu excentré, centré sur le Christ, mais peut-être excentré par rapport aux avantages qu'on pouvait tirer d'être dans une société chrétienne, eh bien se situait dans les banlieues de l'Empire, ces lieux arides, difficiles, réputés dangereux qu'étaient les déserts. Eh bien aujourd'hui, les banlieues, là où les gens sont mis au banc, ces quartiers des périphéries urbaines, est-ce que c'est pas intéressant d'y avoir des communautés de prière, de travail et d'accueil. C'était un peu ça, finalement, la maturation intellectuelle qui s'opérait en moi, notamment, et j'en parle beaucoup dans mon livre, à partir des années 90, quand le terrorisme fait son apparition en Algérie, et puis progressivement en France.
Effectivement, vous avez un intérêt et en même temps beaucoup d'inquiétude par rapport à la série d'attentats qui a commencé donc à Paris, dans le métro, et ailleurs en France. Bon, également, ce qui vous intéresse, c'est la situation des moines chrétiens en Algérie. Est-ce que, effectivement, cet intérêt, enfin, qui est plus que de l'intérêt, puisque c'est une forme de quoi, d'inquiétude, peut-être ?
Certainement une attention qui est de l'ordre de l'engagement, c'est-à-dire que, comme la question de la classe ouvrière, de la vie des ouvriers au XIXe siècle, l'Église ne pouvait pas passer à côté, ou alors à ce moment-là on laisse le Parti communiste, une philosophie athée, s'emparer de la question de la justice sociale. De la même manière, aujourd'hui, il me paraît difficile de passer à côté de la question des migrations, l'arrivée d'un certain nombre de gens qui viennent du sud de la Méditerranée, et puis la question religieuse de l'islam, avec sa composante d'islam traditionnel, mais aussi les débordements qu'on a pu voir sous des formes terroristes, avec éventuellement, pour ce qui est de l'Algérie et d'autres pays, des infiltrations des sécurités, de la sécurité militaire algérienne, du régime lui-même qui joue aussi avec cet épouvantail pour se maintenir au pouvoir. Mais quelles que soient les stratégies mises en œuvre, on voit bien qu'il y a une montée de formes de violence qui sont liées à des questions religieuses. Et donc pour nous, Européens, ça nous replonge dans les guerres de religion, ça nous replonge dans des problématiques qui sont aussi celles de, bon, mais si ces pauvres sont musulmans, on doit rejoindre le pauvre, on doit rejoindre le musulman, c'est quoi la pastorale des migrants, comme on dit dans l'Église catholique, ou est-ce que c'est le dialogue interreligieux, comment on fait pour faire les deux en même temps? Toutes ces questions, c'est des questions énormes parce que c'est des questions très concrètes qui se posent dans nos villes aujourd'hui. À Marseille, par exemple, il y a 200 000 musulmans, pratiquement un quart de la population marseillaise est musulmane. Il y a aussi 80 000 juifs. La France est devenue le troisième pays juif au monde. Donc la France n'est plus un grand pays catholique où on se bat entre laïcard et catholique. C'est devenu un pays qui a un côté multiculturel, surtout dans ces grandes villes. Et donc il me semblait important de revenir à une réflexion sur la présence de l'Église, et notamment dans sa composante monastique, par rapport à ces nouvelles réalités. Voilà, ça c'était les défis auxquels on était confrontés, et de fait, cette vision que j'avais eue en 89, qui était intuitive, progressivement au contact, notamment, vous l'avez mentionné, de ce qui se passe en Algérie, notamment de la présence des moines de Tibérine, puisqu'il y a deux frères, Paul et Christophe, qui viennent de l'abbaye de Tamie où je suis et qui vont en Algérie, et donc en 93, il y a les groupes islamiques armés qui lancent un ultimatum contre les étrangers en Algérie. Ils ont un mois pour quitter l'Algérie, et le monastère de Tamie est visité par un groupe qui, 10 jours avant, a tué 12 Croates, a égorgé 12 Croates, des travailleurs immigrés chrétiens à 3 kilomètres du monastère. Et donc ces questions, vous avez raison de le dire, ce n'était pas simplement des questions intellectuelles, c'était une inquiétude pour la vie de ces frères. J'ai connu 4 des 7 frères qui ont fini par être assassinés le 21 mai 1996. Et cette violence traversait donc la Méditerranée, le détournement d'un Airbus en 1994, les bombes posées par un certain Khaled Kelkal, un Français d'origine algérienne, et donc l'impression qu'il y a des réseaux terroristes, et puis des préjugés, des stéréotypes qui sont jetés les uns après les autres, en pâture, à travers les grands médias commerciaux, et qui suscitent une méfiance, c'est-à-dire que dès qu'on va rencontrer quelqu'un dans le métro, qui physiquement peut laisser croire qu'il vient justement d'Algérie, eh bien tout de suite va revenir en tête les horreurs de la guerre d'Algérie, le djihad, les croisades, etc. Et donc il me paraissait très important de créer des réseaux de fraternité qui auraient comme objectif exactement inverse de vivre une vraie communion fraternelle entre êtres humains qui finalement sont tous fondamentalement les mêmes, c'est-à-dire nous sommes tous des métis. Moi j'ai un frère qui a les yeux bleus, moi j'ai les yeux marrons, nous sommes des métis entre différentes tribus européennes. Les Algériens sont fondamentalement des berbères, qui ont été arabisés après, mais 85% des Algériens ont du sang berbère, et nous sommes donc appelés à vivre ensemble dans nos mêmes immeubles ici en France. Et comment est-ce qu'on va arriver à travers nos différences culturelles, ethniques et religieuses à vivre une fraternité positive et non pas vivre dans la peur en laissant ceux qui pratiquent la violence, et notamment la violence à l'égard de civils innocents, les laisser définir l'image des uns et des autres. Et c'est ça progressivement qui a pris corps en moi, paradoxalement, à l'ombre d'un mur de clôture à l'abbaye de Thamier, et je dois beaucoup aux moines de Tibérine, qui ont pris ce risque jusqu'à la mort pour 7 d'entre eux, de vivre en fraternité avec leurs voisins musulmans, ce qui m'a permis de comprendre qu'il faut faire une différence entre l'islam, qui est un corps de doctrine, certaines pratiques, avec évidemment des différences selon les chiites, les sunnites, le mouvement soufi, etc., différentes écoles juridiques, mais qui a une certaine unité, une certaine représentation de Dieu et de l'homme, et puis les musulmans, les musulmans en chair et en os, qui sont, c'est vrai, musulmans, ils peuvent se définir comme ça, mais qui sont aussi des êtres humains comme moi, donc une expérience concrète de notre humanité commune à vivre ensemble en étant voisins, et puis aussi, sur le plan de la théologie catholique, dire que voilà, l'Esprit de Dieu est dans le cœur de tout homme, puisque nous avons tous été créés à l'image de Dieu, et donc il y a manière de retrouver cet Esprit qui nous est commun, et de vivre une aventure donc positive, constructive, qui nous permette de sortir de ces antagonismes, pour faire advenir un monde fraternel, puisque nous sommes ensemble sur la planète pour au maximum 100 ou 120 ans pour les plus chanceux d'entre nous, et que plutôt de s'envoyer des obus pour savoir qui va occuper tel ou tel morceau de la planète qui serait, paraît-il, une terre sainte, ou alors pour aller tirer du pétrole dans certains pays que l'on convoite à force aussi d'interventions militaires, eh bien entrer dans des relations au XXIe siècle qui soient un peu plus sages.
Donc une réelle volonté d'apaiser en quelque sorte les relations humaines ?
Oui, c'est ça, sortir de ces logiques de violence et par un témoignage très concret, sans forcément prendre la parole, en tout cas au début, montrer qu'il est possible de travailler ensemble à un monde meilleur.
Alors, vous allez donc partir sur Marseille en vous inspirant, je pense, des communautés américaines. Vous appelez ça le néo-monachisme. Alors vous allez nous en parler un petit peu, puisque en fait ce qui manquait donc dans la communauté de Taïmé, c'était cette dimension à la fois caritative et cet aspect d'immersion au sein d'une population défavorisée. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est le néo-monachisme?
Voilà, ce qu'on appelle le nouveau monachisme, ou nouveau monachisme aux États-Unis, c'est très intéressant parce que c'est des communautés qui sont majoritairement protestantes. Or, dans la tradition protestante, chez nos frères de la Réforme, il y a une certaine défiance depuis Luther par rapport à la vie monastique, le fait d'être célibataire en particulier. Et on voit que dans certains cercles protestants, notamment aux États-Unis, il y a un retour vers des communautés dans lesquelles il y a des célibataires et une référence explicite, par exemple, à la figure de Saint Benoît. Et Saint Benoît, précisément, c'est une figure qui s'est imposée au moment du morcellement de l'Empire romain, de l'époque de l'Europe qui a été fragmentée, divisée par justement des invasions barbares, des chocs culturels et religieux, puisque ces barbares n'étaient pas chrétiens. Et on s'aperçoit par une relecture qui est faite par ces groupes que l'Europe a pu retrouver un degré de civilisation et une unité grâce justement à la présence des monastères, et que la tradition monastique elle-même n'est pas simplement une fuite vers le désert, une espèce de fuite du monde humain, de la civilisation, mais qu'au Moyen-Âge, au contraire, les moines ont joué un rôle d'évangélisation très important, qu'ils étaient missionnaires et que donc on allait faire des implantations monastiques dans des zones d'Europe dans lesquelles il n'y avait pas forcément des voisins chrétiens. Et alors là, c'est l'idée d'aller habiter comme communauté monastique dans les banlieues déshéritées de la mondialisation, dans les franges de l'Empire, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire dans les quartiers défavorisés. Par exemple, il y a une communauté qui s'appelle The Simple Way, la Voie Simple, qui a été fondée en 1997, exactement au même moment où nous fondions notre communauté, la Fraternité Saint-Paul à Marseille, dans un quartier pauvre de Philadelphie. Et c'est Shane Claiborne, qui est un Américain, qui a écrit un livre qui a eu énormément de retentissement aux États-Unis, qui s'appelle « La Révolution irrésistible », qui malheureusement n'a pas encore été traduit en français, et qui croise bien ces deux aspects, c'est-à-dire des communautés monastiques de célibataires, inspirées de l'intuition bénédictine notamment, qui marque beaucoup la vie monastique en Occident, mais le choix du lieu, cette fois-ci, puisque le moine, on dit souvent l'habit ne fait pas le moine, et moi je dis souvent l'habitat fait le moine. Le choix du lieu va caractériser la vie monastique, et donc on fait le choix d'un lieu où il y a des pauvres. Aux États-Unis, il n'y a pas une forte présence musulmane, mais en France c'est encore plus intéressant, puisque les quartiers pauvres aussi sont souvent des quartiers dans lesquels l'islam est devenu la référence culturelle ou religieuse majoritaire. Et donc là, à partir de la tradition monastique, qui est une tradition de prière, de travail, et que ce soit à Philadelphie, dans cette communauté ou dans la nôtre, un travail à mi-temps pour avoir du temps pour la prière, mais aussi l'accueil des voisins. Et donc nous, à Marseille, notre choix, et c'est la même chose, je vois, à Philadelphie, dans ces communautés, c'est d'avoir toujours quelqu'un qui, comme un portier du monastère traditionnel, peut accueillir les voisins toutes les après-midi de l'année. Donc à tour de rôle, nous nous efforçons d'être présents. Et à la demande des voisins, par la suite, un certain nombre de services nous sont demandés. Donc c'est aussi une vie monastique qui a une dimension d'accueil qui est dans la tradition monastique, qui est aussi une dimension, comme vous l'avez mentionné, caritative, d'engagement solidaire à la demande des voisins. Eux nous ont demandé, par exemple, pourriez-vous nous vous occuper d'aider nos enfants à réussir à l'école. Et donc on revoit on a toute cette tradition monastique de rayonnement culturel, éducatif. Les monastères ont souvent été à l'origine des écoles, à l'origine des hôpitaux. Il n'y avait pas de dissociation entre une vie qui serait, paraît-il, purement contemplative, et puis un engagement dans le monde qui est caractéristique de ce qu'aujourd'hui on appellerait l'humanisme, car l'humanisme a ses racines précisément dans ces grandes traditions juives et chrétiennes. Et donc l'avènement de ce nouveau monachisme, c'est arriver à recréer finalement des pôles petits, modestes, mais des vrais pôles de spiritualité et de rayonnement culturel et d'éducation qui permettent d'entrer dans des relations qui progressivement transforment le monde par capillarité. C'est pas tellement une évangélisation où on va aller frapper aux portes, non, c'est les gens eux-mêmes qui viennent frapper à la porte de ces micro-monastères qui sont aussi des micro-lieux de réconciliation dans lesquels les gens vont apprendre à reconnaître la différence de l'autre, à trouver aussi des richesses dans des traditions qui ne sont peut-être pas les leurs au départ, et notamment par l'intelligence, le progrès, par l'accompagnement scolaire. Nous, on fait venir une soixantaine de bénévoles, donc c'est aussi un autre monde, des gens qui ne se croiseraient pas, qui se retrouvent dans notre cité, où on fait église d'une manière un peu originale.
On sait qu'en islam, donc, il y a cinq piliers principaux, on ne va pas les citer ici, mais par contre, pour votre communauté, vous avez donc édifié une charte, en quelque sorte, sur sept points fondamentaux. Vous allez peut-être nous les rappeler brièvement. Est-ce que donc ces sept points fondamentaux au sein d'une communauté essentiellement musulmane, que sont vos voisins directs, est-ce que c'est justement au sein de cette cité le signe fort de votre identité chrétienne? Et quelque part, est-ce que on peut peut-être parler d'évangélisation, mais en sourdine?
Ça, c'est une question très importante, difficile et assez subtile. Il y a un rapport, effectivement, dans tout homme, et un rapport entre son identité profonde, c'est-à-dire qu'il faut être soi-même, sinon ce serait se condamner à devenir quelqu'un d'autre, ou de ne pas être pleinement tout ce qu'on est, donc de ne pas donner à l'autre tout ce qu'on est en mesure de lui donner. Et puis en même temps, parfois les gens peuvent considérer l'identité comme quelque chose de conflictuel et de dérangeant, ce qui est parfois le cas. Et pour ce qui est des chrétiens, on voit bien que dans l'identité de Jésus, qui est l'homme fraternel par excellence, il se heurte à un monde qui n'est pas capable de l'accueillir, c'est-à-dire certaines personnes vont le rejeter violemment et même le supprimer. Donc il y a en fait deux logiques qui sont très bien décrites par Madeleine Delbrel, une grande mystique qui a été assistante sociale dans une banlieue rouge communiste de Paris. Et Madeleine Delbrel disait que finalement ces deux logiques étaient les suivantes. Il y a d'une part une logique d'alliance qui va vous mettre en partenariat avec des gens qui ne pensent pas forcément comme vous en tout point. À son époque, c'était les communistes qui croyaient que Dieu n'existait pas, mais qui luttaient pour la justice sociale, et le chrétien se devait de lutter avec eux pour la justice sociale. Et par contre, eh bien, sur la question de Dieu, elle était plutôt dans une logique qu'elle appelait une logique de salut, dans laquelle elle proclame, peut-être surtout par sa vie, mais ça n'interdit pas aussi de prendre la parole si les gens vous posent des questions, eh bien oui, la réalité d'un Dieu qui se fait connaître au monde dans l'histoire, le Dieu de Jésus-Christ, et donc ça pouvait la mettre parfois en opposition, et en tout cas dans une posture qui parfois peut comporter une certaine souffrance. Donc cette question d'identité est très importante. Quand on est minoritaire, ce qui est notre cas comme chrétien dans un environnement musulman, ou comme c'était le cas de Madeleine Delbrel dans un environnement communiste, il est très important de pouvoir se ressourcer. Alors le Dieu des chrétiens, c'est pas un Dieu de l'observance. Donc nos sept piliers, voilà, il s'agit de quelque chose d'assez pragmatique qui permet de fonctionner dans un environnement particulier. Il ne s'agit pas de les absolutiser, mais il y a d'une part un pilier qui est celui d'avoir une communauté de base qui est une communauté de célibataires, une communauté monastique, la prière tout simplement, aussi le choix du lieu qui pour nous est très important et qui est donc le choix d'un lieu plutôt déshérité et dans lequel il y a beaucoup de personnes étrangères à l'église. Enfin, le choix d'un travail à mi-temps pour se donner une vraie disponibilité par rapport à la prière et au quartier, mais aussi l'entraide, c'est-à-dire être ouvert à des formes de solidarité avec le quartier, l'accueil, tout simplement pouvoir accueillir les gens, et enfin le lien avec la paroisse, puisque nous ne souhaitons pas faire une église parallèle, mais au contraire articuler cette présence comme un relais d'église par rapport à des unités plus importantes, comme celle de la paroisse ou du secteur paroissial, et puis enfin raccorder par ce biais à l'église universelle. Donc il ne s'agit pas de se faire une petite secte dans son coin. Donc il y a une identité forte qui est une identité d'église, une manière pour ce qui nous concerne de ne pas nous cacher par rapport à nos voisins, et on a clairement affiché notre identité chrétienne. Quand on vient dans notre appartement et c'est là que nous recevons nos voisins, il y a des icônes partout, il y a des croix. Pour les musulmans, Jésus n'a pas été crucifié, c'est ce que nous dit le Coran. Eh bien, il y a des crucifix chez nous. Il a pu arriver qu'au début, des enfants ne veuillent pas venir chez nous pour cette raison, pour d'autres raisons, parce qu'on était chrétien. On ne se cache pas du tout de notre identité chrétienne, et la réaction de la plupart des musulmans, la majorité de nos voisins, c'est au contraire un grand respect pour des gens qui sont des gens du livre, comme ils disent, expression à mes yeux erronée, mais qui exprime une certaine proximité par nos racines bibliques, même si pour les musulmans, donc, dans la version en tout cas coranique, nos écritures auraient été, selon eux, falsifiées. Mais il reste que nous faisons partie des gens qui sont les plus proches d'eux dans leurs écritures de leur foi abrahamique. Donc la question de l'identité est importante dans un contexte musulman. Je crois qu'on a plutôt à gagner à affirmer notre existence chrétienne, mais sans aucune hostilité avec les personnes. Et nous essayons de faire la distinction entre l'islam, qui est un corps de doctrine, un certain nombre de pratiques, et puis les musulmans, c'est-à-dire que les personnes qui nous entourent peuvent se définir comme musulmans. Elles se définissent souvent comme musulmans avec des critères divers. Et il y a des gens qui vont aller à la mosquée tous les vendredis, ils sont très peu nombreux. Il y a des gens qui vont faire le ramadan, faire une partie du ramadan, d'autres qui vont simplement fêter leurs deux grandes fêtes de l'Aïd. Et puis des gens qui vont se dire musulmans sans être du tout pratiquants. Il y a les musulmans qui mangent du porc, ceux qui n'en mangent pas, ceux qui boivent de l'alcool ou non. Et donc les définitions de l'identité des autres sont différentes. Ce qui est très important en termes d'identité, c'est de pouvoir découvrir progressivement, à la fois pour nous-mêmes et dans le regard de nos voisins, que le Dieu que nous proclamons, c'est un Dieu fraternel. Que notre mission, ça n'est pas de convertir les autres. Notre mission, c'est d'être convertis nous-mêmes. C'est-à-dire, pour reprendre la parole de saint Athanase, de devenir Dieu. Souvent, ça fait sursauter mes auditoires chrétiens. Nous ne sommes pas une secte, mais pourtant, nous affirmons quelque chose d'énorme, c'est que nous pensons que notre vocation chrétienne, c'est de devenir Dieu. Mais c'est pas n'importe quel Dieu, c'est un Dieu fraternel, c'est l'amour. Et Christophe le Breton, ce frère de Tibérine le plus jeune qui a été assassiné à l'âge de 45 ans et que j'ai connu à l'abbaye de Tamier, voulait être missionnaire quand il était jeune. Et j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Prier 15 jours avec Christophe le Breton » qui a été publié par les éditions Nouvelle Cité. Et j'ai retrouvé une de ses lettres juste avant sa mort où il dit, lui qui avait toujours voulu être missionnaire, il dit « Je découvre de plus en plus une mission, deux points, devenir frère ». C'est-à-dire que cette mission, c'est une mission qui consiste à obéir à ce seul commandement que nous a laissé Jésus, c'est-à-dire de nous aimer les uns les autres, d'aimer jusqu'à nos ennemis comme Jésus lui-même a aimé ses ennemis. Donc il n'y a là aucune menace prosélyte par rapport à nos voisins. Nos voisins se situent par rapport à cette réalité d'un témoignage évangélique qui est un témoignage d'amour fraternel. Et cela déclenche des discussions qui sont des discussions d'ordre théologique. Par exemple, une de nos petites voisines qui vient catastropher un soir en lui disant « On m'a dit que vous alliez pas aller au paradis parce que vous êtes chrétien ». Et comme cette réponse ne la satisfait pas sur la base du témoignage, c'est-à-dire qu'elle voit qu'on aide tout le monde dans le quartier, qu'il y a de l'accompagnement scolaire gratuit, etc., elle repart à l'attaque auprès de son père, et son père trouve finalement un imam qui lui dit « Bah si les chrétiens font du bien, ils peuvent peut-être aller au paradis ». Et donc voilà que notre petite voisine est soulagée, Et ça, c'est ce qu'on appelle du dialogue intra-religieux, c'est-à-dire entre les musulmans. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent avec eux. Donc c'est très important de voir que notre témoignage humain peut avoir des conséquences dans la réflexion théologique de nos voisins musulmans. C'est un travail de longue haleine qui est celui de notre propre conversion. Dans quelle mesure notre témoignage est un témoignage de ce Dieu fraternel ?
Alors, dans votre livre, je crois qu'à un moment, il y a un de vos voisins qui vient et qui vous dit « Qu'est-ce que vous faites exactement ?» Et vous lui répondez « Nous ne faisons rien, textuellement. » Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Que, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt une présence bienveillante et accueillante donc au sein de cette communauté, placée donc sous le signe de la fraternité, en quelque sorte un pur don. Est-ce ainsi que vous concevez donc l'imitatio Dei, donc à l'image du Christ qui était le pain descendu du ciel ? Pur don. Et vous n'êtes pas sans savoir, puisqu'on parlait justement juste avant de théologie, ce qui oppose notamment l'islam et le christianisme au niveau du dogme, c'est essentiellement la crucifixion. Et puis c'est le fait que Jésus ne soit pas considéré comme le Fils de Dieu, mais uniquement un prophète. Mais vous n'êtes pas sans savoir que les musulmans attendent quelque part les preuves de la résurrection. Est-ce que vous vous sentez porteur à votre humble niveau, de cette tâche, en quelque sorte, puisque vous disiez tout à l'heure, nous sommes appelés à être des hommes-dieux, ou des dieux.
Oui, c'est ça, nous sommes théophores, nous sommes tous des Christophe. Je parlais de frère Christophe, qui avait une conscience vive de cette mission qui lui venait de son prénom, c'est-à-dire nous sommes porteurs du Christ, et qu'en fait, la seule mission du chrétien, c'est d'être suffisamment lui-même transformé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, et donc tout le travail spirituel consiste à recouvrer cette image de Dieu, qui est à la fois une image qui ne s'impose pas, puisqu'aujourd'hui encore on parle de la nature divine du Christ Jésus, c'est-à-dire que apparemment Dieu s'impose tellement peu qu'on peut encore discuter, c'est pas évident pour tout le monde. Et de la même manière, nous ne souhaitons pas nous imposer. Il nous paraît important de vivre ce mystère de l'incarnation pascale, c'est-à-dire ce mystère de l'Esprit de Dieu lui-même, qui vient habiter parmi nous et qui vient habiter parmi nous jusqu'à donner sa vie. Donc effectivement, on est dans le mystère du don. Et auprès des musulmans, la difficulté, c'est que l'islam comme doctrine théologique, on pourrait dire que dogmatiquement, cette doctrine, qui pourrait paraître proche du christianisme, puisqu'elle fait référence au Dieu unique et que les chrétiens pensent aussi que nous situons dans cette tradition juive du Dieu unique, mais qu'en même temps, l'islam, comme corps de doctrine, est une représentation de Dieu qui peut être considérée comme dogmatiquement antichrétienne, c'est-à-dire pas simplement neutre, mais antichrétienne, puisque, comme vous l'avez dit, elle s'oppose à l'idée même d'un Dieu qui s'incarne. Donc Jésus n'est pas fils de Dieu, c'est simplement un très grand prophète, et puis Jésus n'a pas été crucifié, c'est-à-dire l'idée qu'un Dieu puisse faire cette épreuve de la mort, passer par l'épreuve de la mort et de la souffrance et se donner à travers ce mystère de Pâques et le mystère de la crucifixion, lui est totalement étrangère. Donc il s'agit non pas de se lancer dans des grandes diatribes sur ces questions, puisque de toute façon elles nous séparent, et face à l'obstacle, au lieu de chercher à sauter l'obstacle, qui paraît a priori beaucoup trop élevé, il s'agit de faire comme Dieu lui-même, le Dieu des chrétiens, lui est passé par en dessous l'obstacle, c'est-à-dire que, ayant des difficultés à se faire connaître pleinement à sa créature, il a décidé de se faire homme, et de se faire homme jusqu'à l'abaissement suprême, d'être condamné par ses créatures injustement, et de vivre ce mystère de la croix, et de faire connaître donc sa toute puissance, douceur, son amour total, son respect absolu du cœur de l'homme, et de faire connaître donc cet amour sans limite. Donc vis-à-vis de nos voisins, le défi est très grand, mais c'est aussi un défi pour nous de reconnaître, et bon, par exemple dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 25, on le voit, tout ce qu'on fait au plus petit d'entre nos frères, c'est à Dieu qu'on le fait, et donc Dieu est présent là, dans les étrangers que nous accueillons, dans le pauvre que nous aidons à réussir à l'école, par exemple. Et donc il s'agit de découvrir Dieu dans nos voisins musulmans, le Dieu des chrétiens. Le Christ est là aussi chez nos voisins. Donc ils ont eux aussi cette mission peut-être inconsciente, mais de nous apporter cette richesse de Dieu qui parfois se manifeste par des des magnifiques gestes de fraternité, puisque nos voisins sont les premiers à nous offrir des magnifiques chorbas ou d'autres plats du Maghreb, comme ça, gratuitement, sans qu'on on ait rien demandé. Donc il y a des expressions de fraternité transconfessionnelle, et vous faisiez mention tout à l'heure de ce jeune, effectivement, qui, quand on est arrivé dans le quartier, me parlait les yeux fermés, parce que je portais une croix, et me disant que voilà, le Coran lui interdisait de regarder cette croix, et je lui disais que moi j'avais lu plusieurs fois le Coran, et qu'il n'y avait aucune sourate, aucun passage du Coran qui interdisait de regarder une croix. Et c'est pas du tout ce discours religieux, théologique, qui l'a convaincu, mais c'est plus tard, quand il s'est rendu compte que ses amis venaient jouer au Scrabble chez nous, et qu'ils avaient l'air de bien s'amuser, il est venu jouer au Scrabble, et pour gagner la partie, il fallait ouvrir les yeux. Donc c'est la réalité d'un voisinage humain qui a fait qu'il a pu communiquer. Et un an après, à l'accompagnement scolaire, entre deux équations de mathématiques, il nous disait, finalement, j'ai réalisé que vous pourriez habiter ailleurs, vous êtes venu habiter ici pour nous. Donc, ce secret messianique, comme on l'appelle dans les Écritures, cette reconnaissance progressive des hommes de l'identité réelle de Jésus, elle est aussi à l'œuvre dans nos relations avec nos voisins, qui reconnaissent, à travers un certain nombre de gestes, la présence de ce Dieu fraternel, sans forcément, au départ, nécessairement le nommer.
Alors, justement, par rapport à vos voisins, est-ce que vous n'êtes pas un révélateur du Christ intérieur qui porte en eux-mêmes, et du coup de la vision du Jésus musulman, voire plus, puisque pour les chrétiens, effectivement, Jésus est à la fois homme et à la fois Dieu?
Oui, il y a un mystère qui nous habite beaucoup, c'est ce mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. À partir de là, on peut se dire, comme le dit saint Paul, que nous aussi, nous avons à vivre les souffrances du Christ, qui peuvent aller jusque donc au don physique de sa vie, mais certainement au don chaque jour. Saint Paul dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens que chaque jour, il traverse les affres de la mort, non seulement pour lui-même revivre, mais pour aussi donner cette vie à ceux qui l'entourent. Et c'est donc le processus de la vie chrétienne qui est toujours ce processus de mort et de résurrection chaque jour. Et pour ce qui me concerne, avec toute notre communauté et moi de manière peut-être un peu caricaturale, le fait que j'ai vécu dans les beaux quartiers, que j'avais un peu tout dans la vie, le fait de descendre l'échelle sociale et de faire cette mobilité sociale descendante volontaire, ça n'est finalement qu'une réplique à une très faible mesure de cette mobilité sociale descendante volontaire de Dieu lui-même, qui aurait pu rester là-haut dans le ciel, mais qui est venu habiter parmi nous. Donc venir habiter dans une cité HLM sans faire de bruit, et au début nos voisins n'ont absolument pas décodé qui on était, eh bien c'est une révélation progressive, effectivement, de qui est le Christ Jésus. Alors cette révélation, elle se fait à travers notre vie imparfaite, mais qui quand même dit quelque chose, et aussi parce que dans la rencontre de nos voisins, qui sont cet étranger accueilli, qui est aussi le Christ accueilli, ce pauvre qui est aussi le pauvre, le Messie souffrant, donc eux aussi sont porteurs du Christ, et il s'agit dans notre rencontre de faire émerger ce vrai visage de Dieu, qui est un Dieu finalement qui dépasse de très très loin l'image peut-être qu'on pourrait en avoir au départ, c'est-à-dire d'un Dieu de pure transcendance, qui est plutôt le Dieu que l'on trouve dans le Coran, un Dieu qui est là-haut et qui au maximum nous donnerait un livre de bonne conduite, mais qui ne se donne pas lui-même. Or, dans la vie chrétienne, il ne s'agit pas simplement de suivre des observances pour être en règle avec Dieu, il s'agit vraiment d'une rencontre intérieure avec ce Dieu vivant, et qui va nous conduire à nous donner totalement nous-mêmes, comme lui-même s'est donné totalement en notre humanité, dans ce mystérieux échange de son humanité et de sa divinité. De riche qu'il était, il est devenu pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, dit saint Paul. Et donc là, c'est vraiment tout un mouvement de la vie spirituelle chrétienne que nous avons à découvrir et à vivre. Et nos voisins, progressivement, peuvent découvrir ceci. J'ai par exemple une de mes voisines qui, m'entendant à la radio, après 12 ans de présence, me dit « Mais Henri, je ne savais pas que tu étais trader, je ne savais pas tout ce parcours. » Elle lit mon livre, mais au bout de 12 ans de présence. Et elle se jette dans mes bras en me disant « Mais je croyais que moi j'étais une citoyenne, me dit-elle, et toi tu es un super citoyen. » C'était ces mots pour exprimer cette présence au monde, et elle avait perçu un certain nombre de choses, c'est-à-dire finalement un amour qui vient d'ailleurs, qui nous traverse et qui nous rejoint dans ce partage de vie qui au début donc n'était pas chargé d'un dialogue disons, religieux, confessionnel, mais qui, à la fin, avec très peu de mots, finalement, est capable, au bout d'un certain temps, de porter ses fruits, c'est-à-dire d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'est la vie spirituelle, et donc du Dieu qui anime cette vie spirituelle. Et donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas de conférences sur des dogmes qui seraient opposés, mais d'une expérience concrète, une expérience qu'on pourrait qualifier de mystique au départ pour ce qui nous concerne, nous, comme communauté monastique, mais qui se traduit par un style de vie, par un lieu de vie, par des relations avec nos voisins qui progressivement sont une véritable catéchèse, c'est-à-dire que c'est un enseignement à travers tous ces gestes du Dieu auquel nous nous référons. Et c'est là que, effectivement, le visage du Christ, progressivement, peut se révéler à travers ces rencontres.
Qu'est-ce que, selon vous, être chrétien, actuellement ?
Pour ce qui me concerne, être chrétien, je me réfère toujours à cette lettre de frère Christophe de Tibirine qui a été assassiné à l'âge de 45 ans, qui voulait être missionnaire, cette lettre dans laquelle il dit « Je me découvre de plus en plus une mission, devenir frère ». Et donc la vocation chrétienne, c'est vraiment cette vie fraternelle. Dieu est amour, nous n'avons qu'un seul commandement, nous aimer les uns les autres. Et donc la vie chrétienne est un humanisme au sens qu'il s'agit d'un amour de l'homme. Il n'y a pas de concurrence entre Dieu et l'homme. Jésus est l'homme parfait, et cet homme parfait, c'est justement la divinisation de l'homme. C'est-à-dire que notre paradis ne consiste pas à être dans un endroit où on va avoir des choses extraordinaires. C'est beaucoup plus profond que ça. Le paradis, et ça commence déjà ici sur terre, comme le dit très bien saint Jean dans beaucoup de ses passages dans les évangiles, dans ses lettres, eh bien, c'est cette participation à la vie divine. La vie éternelle, dit saint Jean, c'est de te connaître, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et te connaître au sens biblique, c'est très très fort. Donc il s'agit d'une communion, d'une union avec Dieu, et donc la vocation chrétienne, c'est d'être transformé à l'image de Dieu, ce Dieu fraternel, et donc ça se traduit par un royaume de Dieu qui gagne les corps et les cœurs progressivement dans cette résurrection qui est une résurrection de communion totale dans laquelle justement les barrières qui sont des barrières qui seraient sociales, des barrières qui seraient ethniques et même des barrières religieuses tombent. C'est cette histoire que je raconte dans mon livre avec mon jeune voisin qui me dit « je ne comprends pas le mot contraste ». Et Ahmed, qui a 8 ans à l'époque, et qui a la peau bien foncée, puisqu'il est d'origine comorienne, je lui montre mon avant-bras, et moi j'ai la peau plutôt claire, je le mets à côté de son avant-bras, et je lui dis, voilà, il y a un contraste, ta peau est noire, ma peau est blanche. Il me regarde tout étonné, et du haut de ses 8 ans me dit, mais ta peau n'est pas blanche, elle est rose, et ma peau n'est pas noire, elle est marron. Eh bien, c'est lui qui avait raison. Aujourd'hui, on parle en pixels, on regarde la télévision en haute définition, et finalement, dans notre regard que nous portons les uns sur les autres, on a un regard encore en noir et blanc. On a des archaïsmes qui sont une vision binaire des gens qu'on va mettre dans des catégories. Or, derrière cette diversité infinie des êtres, il y a une communion profonde, et cette communion, c'est la communion qu'on peut trouver dans ce Dieu amour qui nous est révélé à la fin de la Bible juive et chrétienne.
La vie en cité a sans doute bousculé pas mal de vos idées reçues depuis 12 ans. Et en même temps, c'est la même chose, je présume, pour vos voisins directs. Depuis que votre livre est sorti, vous faites énormément de promotions, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, donc auprès des médias français. Est-ce que vous n'auriez pas pour tâche également de rééduquer, en tout cas de réinformer les médias sur justement les idées reçues, les idées toutes faites?
Je n'aime pas ce mot de promotion, sauf si c'est de la promotion humaine, mais il ne s'agit pas là de marketing, ni de gagner de l'argent. Et je crois vraiment à la force du témoignage, c'est arrivé à un certain temps d'expérience, vous pouvez témoigner de faits, c'est-à-dire que ce n'est pas des théories. Et moi je raconte dans mon livre, Moine des Cités, beaucoup de petites anecdotes, mais qui sont des anecdotes significatives et qui vont tout à fait dans le sens de ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est un témoignage sur la capacité de métamorphose de l'Esprit de Dieu qui souffle où il veut. Et qui souffle toujours, en tout cas dans la direction de l'amour fraternel. Et toutes ces petites histoires sont là pour nous montrer que finalement, oui, il y a toujours une force de transformation dans le monde, et qu'en fait, la plupart des gens vivent dans des abstractions qui sont entretenues d'une part par l'ignorance qu'ils ont les uns des autres, et quand je suis arrivé dans mon quartier, un certain nombre de jeunes me parlaient des Français, alors qu'eux-mêmes étaient Français, ils me disaient « mais moi j'ai que la carte », et en fait, par le biais des rencontres, l'accompagnement scolaire, etc., les gens ont fini par se connaître, apprendre à savoir qui ils étaient vraiment. Et donc, on passe d'abstractions qui sont généralement mortifères, qui sont des abstractions souvent liées à des peurs, voire peut-être aussi des jalousies, et on passe de ces abstractions à des stéréotypes qui deviennent plutôt des prototypes, c'est-à-dire des vrais types vivants et des gens qui sont nouveaux, une humanité nouvelle, c'est-à-dire que tout d'un coup est possible, par exemple, que mon voisin Badran, d'origine comorienne, qui rêve d'être banquier, rencontre un ancien banquier dans sa cité et devient banquier, c'est une histoire vraie, au bout de 10 ans, en trouvant un CDI dans une banque française, et réalise son rêve, voilà. Donc c'est possible d'avoir un banquier qui descend dans une cité HLM et un jeune d'une cité HLM de famille musulmane, avec la peau foncée, qui devient, lui, banquier au bout de 10 ans. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est capable de réaliser ce que les gens pensent impossible. Et ça, il faut arriver, et c'est la tradition biblique, de montrer que notre espérance chrétienne, elle s'enracine sur des faits, elle s'enracine sur du réel, elle s'enracine sur une histoire. Et c'est, je crois, la preuve à apporter dans le monde dans lequel nous vivons, que ces histoires-là sont possibles. Et donc, il faut d'abord les vivre. Après, il faut être capable de relire toutes ces histoires et puis d'en témoigner, puisque en témoignant de ces histoires, on rend d'autres histoires possibles. Et comme je l'ai dit au début de mon livre, dans ma dédicace, ce livre, il est aussi dédicacé à tous ceux qui écriront par leur vie la suite de cet ouvrage. C'est-à-dire que dans notre tradition biblique, il s'agit d'abord de vivre des événements. Notre foi, c'est avant tout un événement. Jésus, c'est un événement. Et qu'une fois qu'on a vécu ces événements, par la relecture, par la parole, on peut en donner le secret profond et par là même inviter les gens à poursuivre cette histoire et à transformer le monde, qui généralement se transforme par des toutes petites choses, puisque, on le sait, le royaume de Dieu est ce petit grain de sénévé, la plus petite des graines, qui progressivement grandit et transforme le monde.
Alors justement, vous qui avez été auparavant au contact direct du monde de la finance, quelle est la vision que vous portez, pour le coup, de cette crise, qu'on nous vend comme essentiellement financière ? Est-ce que pour vous, c'est juste un dysfonctionnement du système libéral et donc de l'usure, de l'usufruit ?
Alors dans cette crise, et je dirais c'est une perspective chrétienne, c'est toujours le cas, il y a à la fois une dimension extrêmement incarnée et une dimension technique. Donc il y a une dimension technique ici parce que le marché hypothécaire américain, donc les prêts immobiliers faits à des ménages ayant de faibles revenus, est un système qui, quand il a été mis en place, était fondé sur une hypothèse tout à fait fallacieuse, c'est que le prix de l'immobilier n'arrêterait pas de monter. Et donc quand le prix de l'immobilier a fini par se retourner, les banques qui pouvaient se saisir de ces biens immobiliers quand les gens n'étaient plus solvables, quand ils ne pouvaient plus rembourser leur emprunt, eh bien se sont retrouvés avec des maisons qui valaient moins que l'argent qu'ils avaient prêté. Et donc, ils ont dû aller emprunter à des banques, ce qui a fait monter les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt montant, les gens qui avaient emprunté à des taux variables ont eu encore plus de difficultés pour rembourser. Donc, ils ont à nouveau saisi des maisons. Ça a encore fait baisser les prix de l'immobilier, monter les taux d'intérêt. Et par un système de cascade, finalement, est arrivée une crise de liquidité bancaire, la bourse qui baisse, et puis finalement, donc, des conséquences de récession pour l'économie dite réelle, c'est-à-dire l'industrie, les services, etc. Donc il y a une dimension technique à cette crise. En même temps, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les autorités qui étaient chargées de réguler le marché, puisqu'il y en avait, il y a deux grandes sociétés américaines pour le marché hypothécaire, pour les actions, il y a ce qu'on appelle la SEC, qui est une institution chargée de surveiller, comment est-ce qu'on a pu laisser passer aussi l'affaire Madoff, qui là est une escroquerie en bonne et due forme, etc. Là, on touche à des questions qui ne sont plus seulement techniques, mais qui sont des questions spirituelles, éthiques, c'est-à-dire comment est-on arrivé à une société dans laquelle, finalement, les gens préfèrent fermer les yeux sur toutes ces petites escroqueries, sur la viabilité de ces systèmes ? Eh bien, peut-être parce que dans notre société, on n'a pas assez réfléchi à notre rapport à l'argent. Peut-être qu'en enlevant la dimension religieuse, la dimension spirituelle, la dimension éthique, on est resté dans une société, finalement, où c'est chacun pour soi, l'argent à court terme, sans se poser des questions de développement durable, d'écologie et de justice sociale. Et si tel est le cas, cette crise est salvatrice dans le sens où elle permet au niveau international et sans doute aussi les institutions internationales ne sont pas assez développés pour faire face à ces mouvements de capitaux qui, par définition, sont internationaux, eh bien, c'est de redéfinir, finalement, les objectifs de notre société, et puis se poser des questions en termes personnels et en termes communautaires. Quel est mon rapport à l'argent? Et on retrouve des vieilles choses, comme la liste des 7 péchés capitaux, qui, malheureusement, sont les traductions maladroites de réflexions d'un moine qui s'appelle Évagre le Pontique, qui parlait de notre rapport à différents éléments, et notamment ce qu'on a appelé l'avarice, mais c'est très pauvre pour expliquer ça, mais c'est notre rapport à l'argent, c'est-à-dire, dans la tradition biblique, la richesse n'est pas un mal, mais c'est un danger, parce que le cœur de l'homme, comme dit le prophète Jérémie, est compliqué et malade, et donc parfois on est obsédé par la richesse, on veut garder la richesse pour soi, on met notre cœur dans la richesse, comme le dit un psaume, et il s'agit au contraire de bien user des choses qui passent, de l'argent qui est un bon serviteur, pour s'attacher aux choses qui ne passent pas, parce que l'argent est un mauvais maître. Et donc on trouve au cœur de cette crise le substrat éthique qui fait fonctionner ces marchés et qui fait fonctionner les sociétés, à savoir que la finance est au service de l'économie et l'économie est au service de l'homme. Si tel n'est pas le cas, on retrouve des réflexions de Jésus qui disait aux Juifs, attention à ces coreligionnaires, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et de la même manière, l'homme n'est pas fait pour l'économie. L'économie est faite pour l'homme et la finance est faite pour l'économie et pour l'homme. Donc on retrouve des questions essentielles et qui, là, posent des problèmes d'éducation. Et il est symptomatique qu'un trader, comme je l'étais, pouvait toucher en un mois un bonus équivalent de mon salaire fixe de professeur à mi-temps, puisqu'aujourd'hui j'enseigne à mi-temps. Ça en dit long sur les priorités de notre société. Et ça veut dire qu'il y a une profonde réflexion à avoir et sortir de visions très mécanistes du progrès social ou du progrès humain qui consisterait simplement à mettre de l'économie de marché et tout ira bien, ou alors à envoyer l'armée américaine pour renverser une dictature et puis mettre des bulletins et des urnes pour avoir des élections. Non, la démocratie, l'économie mixte, l'économie sociale de marché, une économie complexe au service de tous, c'est aussi et d'abord le fruit d'une éducation, et pour éduquer un jeune, il faut au moins 20 ans, et donc c'est un patient travail, c'est aussi la responsabilité de chacun d'entre nous, et je crois que c'est une invitation, cette crise, à revoir peut-être la société mondiale que nous voulons voir émerger à travers cette connexion de plus en plus complexe et subtile et en même temps massive de ces milliards de personnes qui en fait ont tout intérêt à mener une vie fraternelle pendant les années que nous avons à passer sur Terre. Et donc c'est inventer ces institutions, inventer ces habitudes, inventer ce code de bonne conduite et cette manière de vivre ensemble pour aller jusqu'au bout de cette crise et faire en sorte qu'un monde meilleur émerge de ces difficultés.
Alors vous faites pas mal de conférences ces derniers temps, au moins une par semaine, donc vous voyez énormément de monde. Est-ce que, donc du fait de votre parcours un peu atypique, est-ce que à la manière des koans zen, vous n'êtes pas vous-même un koan pour ces gens, justement, essayer de déclencher peut-être un processus de réflexion, mais en sens inverse?
C'est une excellente question et bien posée. Je crois qu'il faut être capable de rester une énigme à soi-même, une énigme aux autres, parce qu'une énigme à koan, comme vous le dites dans cette tradition zen japonaise, c'est précisément une histoire sur laquelle on médite et qui va vous inviter, vous, à vous décentrer, à vous remettre en cause. Et donc mon histoire, souvent je dis, c'est une caricature. Les caricatures grossissent les traits. Le trader né à Neuilly-sur-Seine, franco-américain qui va habiter les quartiers nord de Marseille après être passé dans un monastère traditionnel, ouf, ça fait beaucoup. Oui, c'est une caricature. En même temps, ça nous renvoie tous à nos rapports à l'argent, nos rapports à Dieu dans ma vie, qu'est-ce que ça veut dire? Notre rapport à l'humanité, ces migrations qui viennent dans nos pays, comment accueillir le pauvre et l'étranger. Eh bien, tout ça, c'est une question plus qu'une réponse toute faite. Et c'est très important, effectivement, que chacun soit mis en route. Il ne s'agit pas de vivre une vie exceptionnelle ou sublime. Ça fait bientôt 48 ans que je vis avec Henri Quinson. Je vois toutes mes limites, mes défauts, mes insuffisances. Mais je crois qu'en même temps, ces gestes prophétiques dans la tradition biblique, c'est aussi un certain nombre d'actes qui sont posés et qui sont une espèce de poil à gratter, un petit coup de pied dans la fourmilière et qui permettent aux fourmis qui croyaient peut-être qu'il suffisait de faire métro, boulot, dodo et de ne pas se poser de questions devant un bon film de Hollywood ou alors sa Game Boy, et bien finalement d'accepter d'être vivant, c'est-à-dire de se remettre en question et justement de mener une vie savoureuse qui a du sens et qui qui soit plus belle. Donc, il est important, je pense, de rester dans cette vie qui n'est pas simplement une réponse, mais qui est surtout une question et une invitation chacun à vivre davantage.
Merci, Henri Carson. Une dernière question. Est-ce que votre vocation a fait des émules autour de vous?
Alors, au début, j'ai commencé tout seul, et puis donc très rapidement, il y a Karim de Brouckère qui a cofondé cette fraternité avec moi. Et puis nous avons été rejoints par Jean-Michel, qui voulait dans un premier temps repartir à Tibirine et qui a pu vivre 8 ans en Algérie. Et puis rejoint également aussi par Jean-Paul Lejeune, un prêtre belge. Un couple aussi qui vit avec nous depuis 5 ans, puisque nous avons maintenant 3 appartements dans notre cité à Marseille. Et puis cette 60aine de bénévoles qui nous aident notamment pour l'accompagnement scolaire. Et puis à travers les conférences et les témoignages qu'on peut donner à l'extérieur, c'est aussi mettre en route des gens, pas forcément directement avec nous, mais dans une réflexion et une réponse dans leur vie quotidienne. Ça peut être aussi leur vie familiale et professionnelle ou leur vie associative. Donc des émules, oui, de fait, on est plus nombreux que quand on a commencé. Et alors la question après pour nous, c'est de voir si au terme de ce travail de témoignage, on peut avoir d'autres communautés qui s'implanteraient ailleurs. Voilà, c'est là, je dirais, l'esprit répondra, les événements répondront pour savoir si finalement notre vocation est simplement d'avoir cette petite communauté à Marseille ou si elle peut se répliquer avec d'autres personnes dans d'autres cités en France, puisque de toute évidence, les besoins sont profonds et durables.
Alors pour terminer, vous allez peut-être nous rappeler, vous avez un site internet je pense, hein, de votre communauté, vous-même vous tenez des pages personnelles, vous pouvez nous donner un peu voilà, tous les détails si des gens veulent vous entrer en contact avec vous par exemple.
Oui, alors d'abord il y a mon livre Moines des Cités de Wall Street au quartier nord de Marseille qui est publié par les éditions Nouvelle Cité et qui est en vente partout. Il y a également, vous avez raison de le mentionner, notre site internet. Ce site internet, il est facile à retrouver, il suffit de taper dans un moteur de recherche célèbre Fraternité Saint-Paul et tout de suite en haut vous trouverez la liste des pages de notre site. Si vous tapez aussi Henri Quinson, vous retrouverez aussi mon site personnel dans lequel il y a un certain nombre d'interviews également radiophonique, télévisé, et puis un certain nombre d'articles et des informations sur notre communauté qui permettent à ce moment-là aux auditeurs d'en savoir plus.
Bien. Henri Quinson, merci beaucoup pour cet entretien et puis on vous souhaite bon vent.
Merci à vous et merci à vos auditeurs.